avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Chers auditeurs de Radio La Pourdie, bonjour. La crise ukrainienne domine très largement l'actualité de ces derniers jours. Je voudrais donc revenir sur un certain nombre d'éléments d'analyse sur cette épreuve pour la communauté mondiale et le faire en insistant sur des points qui peut-être échappent parfois à la plupart des commentateurs des grands médias. Tout d'abord, bien sûr, il s'agit d'une agression tout à fait injustifiable, qu'on ne peut que condamner, qui est une violation indéfendable du droit international, de la souveraineté de l'État ukrainien, du principe d'intangibilité des frontières, qui peut avoir par ailleurs des conséquences gravissimes et qui a déjà, bien sûr, des conséquences dramatiques avec un nombre considérable de victimes et de réfugiés, et qui risque d'embraser la planète dans les jours ou les semaines qui viennent. Situation d'autant plus invraisemblable d'une certaine manière que personne ne croyait vraiment à cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ensuite, d'autant plus invraisemblable aussi que la Russie risque fort, au bout du compte, de s'enliser dans un pays ayant peut-être sous-estimé la capacité de résistance de la population ou d'une bonne partie de la population ukrainienne. Néanmoins, il est important d'essayer de comprendre, je dis bien comprendre et non pas d'approuver ni de justifier, ce qui a pu pousser la Russie à une telle extrémité, en donnant un autre son de cloche par rapport effectivement peut-être à un discours très unilatéral des principaux médias en France comme en Europe. La situation en réalité est beaucoup plus complexe que la présentation qu'en font les principaux médias. Parmi les éléments à prendre en compte, depuis 2014, le Donbass, les habitants du Donbass à l'est de l'Ukraine sont victimes de tirs et de bombardements ukrainiens qui ont fait des milliers de victimes civiles dans l'indifférence générale et dans le plus grand silence médiatique. C'est un fait qu'on ne peut absolument pas nier. Il y a d'ailleurs un reportage très intéressant de Anne-Laure Bonnel, qui est reporter de guerre, auquel on peut se reporter. Anne-Laure Bonnel considérant que ces victimes civiles sont au nombre de 13 ou 14 000 depuis 2014 dans cette région du Donbass. Et on pourrait ajouter par ailleurs que en Ukraine, les russophones se considèrent ou sont largement ostracisés, voire persécutés. Par exemple, depuis 2014, une loi prévoit l'obligation de parler la langue officielle ukrainienne à l'exclusion de la langue russe pour tous ceux qui occupent des postes de fonction publique, d'enseignants, de travailleurs de la santé, également pour toutes les personnes qui peuvent avoir donc un rôle dans la publicité, les médias, l'éducation, la culture, les sciences, etc. D'une façon plus générale, et comme le souligne l'hebdomadaire Marianne du 22 février, que je cite, « Le fait de n'avoir aucune sympathie pour Poutine n'interdit pas de prêter l'oreille aux doléances de la Russie sur les conditions d'une sécurité durable en Europe et sa crainte de voir ce pays, la Russie, encerclée par les États-Unis avec l'extension de l'OTAN. Or, c'est le sujet tabou, dit Marianne. La Russie, en effet, redoute à tel point que l'Ukraine ne rejoigne l'OTAN qu'il aurait probablement suffi que Joe Biden déclare que l'Ukraine n'avait pas vocation à intégrer l'OTAN pour empêcher la guerre qui se déroule actuellement. C'est ce qu'un certain nombre de commentateurs ont pu souligner. Je cite au hasard Pierre Gentillet, qui est un avocat habitué des plateaux de télévision tels que CNews. « Ce n'est pas l'armée russe qui avance en Europe, dit-il, c'est avant tout l'OTAN qui se rapproche de la Russie en voulant étendre son emprise sur l'Ukraine. » L'adhésion potentielle de l'Ukraine à l'OTAN, poursuit-il, est perçue, qu'on le veuille ou non, perçue par la Russie comme un acte de guerre. Que diraient les Américains si demain des bases militaires russes s'installaient au Canada, au Mexique ou à Cuba? Et on peut d'ailleurs rappeler l'épisode de la crise des missiles de Cuba, qui était précisément due en octobre 1962 au fait que l'Union soviétique avait la prétention d'installer des missiles sur l'île de Cuba et donc apporter, bien sûr, des États-Unis d'Amérique. C'est d'autant plus vrai, tout cela est d'autant plus important qu'en 90 et 91, les dirigeants occidentaux et l'OTAN s'étaient bel et bien engagés auprès de M. Gorbatchev à l'époque à ne pas s'étendre à l'Est, comme en a récemment témoigné par exemple Roland Dumas, qui était alors ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, et comme le prouve aussi un tout récent dossier que vient de publier l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Je cite le géopolitologue Pascal Boniface à propos du contenu de ce dossier. Des documents déclassifiés de l'OTAN montrent que Gorbatchev avait réellement reçu des assurances lors de la réunification allemande et par la suite qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. Ces engagements avaient été pris par James Baker, George Bush, les chefs d'État et de gouvernement allemands, français, anglais et le secrétaire général de l'OTAN. Les néoconservateurs ont toujours nié que ce type d'assurance ait pu être donné à Gorbatchev. Ils sont démentis par les archives même de l'OTAN. Or, il faut savoir que depuis 90 ou 91, l'OTAN a intégré 14 nouveaux États membres qui autrefois faisaient partie de la sphère soviétique. Cette obsession de la Russie et la crainte que lui inspire l'OTAN peuvent être compréhensibles, même si nos opinions publiques ont du mal à le concevoir, parce qu'il ne faut pas confondre l'OTAN, ni les États-Unis d'ailleurs, avec des casques bleus de l'ONU. L'OTAN n'est pas une structure au service de la démocratie et des droits de l'homme, elle est d'abord et avant tout au service des intérêts américains, à la limite occidentaux, et il ne s'agit pas non plus, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, d'une alliance purement défensive. Je sais que les peuples ont la mémoire courte, comme on dit, mais faut-il rappeler que en 99, c'est sans mandat de l'ONU, c'est-à-dire en violation du droit international, que les forces de l'OTAN, une armada de 1000 avions sous commandement américain, ont bombardé pendant 78 jours et nuits Belgrade et la Serbie, sous prétexte de mettre fin à la répression dont étaient victimes les Albanais du Kosovo, avant d'imposer la sécession du Kosovo, qui pourtant est le berceau historique de la Serbie. Et d'une façon plus générale, au-delà de l'OTAN, on doit bien constater que les USA se prennent souvent pour les gendarmes du monde. Ça a été le cas en 2003 lorsqu'ils ont agressé l'Irak sous le prétexte mensonger, on le sait bien, des armes de destruction massive qu'aurait détenu Saddam Hussein à l'époque. Mais c'est également le cas pour la Libye, qui a été détruite à la suite de l'intervention décidée par les États-Unis en 2011 avec la collaboration de la France. Alors, comme le souligne le géopolitologue Emeric Choprad, les Russes se disent « puisque les Américains se sont si souvent affranchis du statu quo et du droit international, pour quelles raisons nous, on devrait s'en affranchir, on ne pourrait pas s'en affranchir si on n'entend pas nos préoccupations stratégiques ?» Et il faut bien reconnaître qu'en matière de politique internationale, les réactions sont souvent à géométrie variable. Par exemple, en septembre 2020, l'Azerbaïdjan, qui était soutenu par la Turquie, a envahi le Haut-Karabakh, c'est-à-dire l'Arménie, sans provoquer de réprobation ou de réaction internationale notable. C'est peut-être parce que la Turquie est membre de l'OTAN. Et faut-il rappeler aussi, entre parenthèses, que la Turquie occupe militairement l'île de Chypre depuis 38 ans, ainsi d'ailleurs que le nord de la Syrie depuis 6 ans. Cela pose donc la question de la responsabilité et des objectifs des Occidentaux et des États-Unis. Selon un sondage du 28 février, je crois, sondage Harris, les Français considèrent que Vladimir Poutine est bien évidemment le premier responsable de la guerre, mais 68% des Français estiment que l'OTAN est en partie responsable de la situation actuelle, et c'est ce que soulignent aussi un certain nombre de personnalités ou d'experts. Hélène Carrère-Dancos, spécialiste de l'histoire de la Russie, d'où elle est originaire, disait récemment sur LCI, le 18 ou le 19 février, je crois, « Les Américains ont tout fait pour humilier la Russie depuis de 1991 ». Hubert Védrine, ancien conseiller diplomatique de François Mitterrand, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, considère que la situation actuelle a été engendrée par les USA, leurs mensonges, leurs reniements et leurs provocations, comme Dominique de Villepin, qui est l'ancien premier ministre de Jacques Chirac, le pense lui aussi. Et d'autres vont plus loin en dénonçant le cynisme des États-Unis. Le sociologue et philosophe français Edgar Morin a déclaré à propos des États-Unis, ils ont incité l'Ukraine à la fermeté tout en sachant qu'ils l'abandonneraient militairement en cas de guerre, et c'est effectivement ce qui se passe. Et d'autres vont encore plus loin en suggérant que l'objectif des États-Unis consistait précisément à pousser Vladimir Poutine à la faute afin de couper définitivement l'Europe de la Russie et la contraindre à renoncer une fois pour toutes à s'approvisionner en gaz russe au profit du gaz de schiste américain. C'est ce que pense aussi le général Jean-Bernard Pinatel, originaire du Pays Basque, lorsqu'il écrit « Les USA veulent éviter tout rapprochement entre l'Union européenne et la Russie ». En d'autres termes, cet épisode que nous vivons actuellement n'est nullement une guerre du bien contre le mal, de la démocratie contre l'autoritarisme. C'est d'abord et avant tout, qu'on le veuille ou non, une guerre économique entre puissances dont l'enjeu n'est autre que l'Europe et la question du gaz. Le gaz russe est une des clés de ce conflit. Le conflit, disent certains, va profiter aux Américains qui vendront aux Européens leur gaz de schiste et leur pétrole au prix fort. Car, ne l'oublions pas, la Russie représente 27% actuellement du pétrole, 41% du gaz et 46% du charbon importé dans l'Union Européenne, ce qui, d'ailleurs, rend délicat le problème des sanctions. Les sanctions qui sont envisagées actuellement ne poseront pas de problème à l'économie américaine, elles poseront d'énormes problèmes en réalité à nos intérêts économiques sans résoudre en quoi que ce soit le fond du problème. On risque en réalité, avec certaines sanctions, de se tirer une balle dans le pied, de fragiliser notre économie, le pouvoir d'achat des Français avec un prix du carburant et du gaz qui pourrait augmenter dans des conditions tout à fait considérables. Quelle issue trouver à cette guerre? Il est peut-être encore possible d'éviter le pire, c'est ce que souhaite le Saint-Siège qui se dit prêt à faciliter la négociation entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce que souhaite Nicolas Sarkozy lorsqu'il déclare « la seule voie possible c'est la diplomatie, car l'alternative à la diplomatie c'est la guerre, on ne peut que lui donner raison ». Encore faudrait-il pour cela qu'on parvienne à un compromis qui pourrait être le retrait immédiat des troupes russes, bien entendu, la démilitarisation du territoire ukrainien, et ensuite la garantie de l'OTAN de ne pas établir de base en Ukraine.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92.